Alors, j'ai l'impression depuis hier, c'est un petit peu une mise à l'épreuve. Tout ce que j'essaye de faire, voilà, ne va, voilà, n'est difficile à aboutir, on va dire. Et ce matin, la prédication de ce matin aussi, en la relisant ce matin, je me suis dit, la tentation souvent, c'est de vouloir trop en dire. Et là, j'ai l'impression d'être partie aussi dans deux sens un peu différents. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vous perdre. Mais je crois que c'est vraiment le... Finalement, je me rends compte que c'est ce que le Seigneur veut aussi un peu m'apprendre. À la maison, on aime bien faire le tri des déchets. Et on a en particulier un carton où on met tout ce qui est à brûler. Les papiers, les cartons. Voilà, moi qui étais en appartement, je ne pouvais pas le faire jusque-là. Mais maintenant, j'aime bien, quand ce carton est plein, de pouvoir aller dehors, prendre le petit bras zéro que mon mari a fabriqué et de pouvoir tout brûler à l'intérieur. Je l'ai encore fait hier soir. Et je trouve vraiment satisfaisant de brûler tous ces papiers qu'on a. Il y a peut-être un gros volume, mais à la fin, il n'y a plus rien. Tout est consumé par les flammes. Tout part. Il ne reste que quelques cendres. Et d'un volume gros, finalement, tout a été éprouvé par le feu. Et ça fait réfléchir. Et hier soir, comme j'avais aussi cette prédication en tête, j'ai pensé un peu au sacrifice qui devait être fait devant le Seigneur. Qui devait être consumé par le feu, à la fin, il n'en restait rien, à part peut-être une odeur qui devait se dégager de cela. Et le texte de ce matin, c'est un texte, pour démarrer l'année, c'est peut-être pas forcément évident, mais c'est le texte qui parle des lois que le Seigneur a données à son peuple. Si vous vous rappelez, notre peuple d'Israël, il est au mont Sinaï, on a fait toute une série pour arriver jusqu'au mont Sinaï, et on arrive à ce moment où Dieu il donne sa loi à son peuple, cette nouvelle loi qui va régir les lois du peuple. Et quand j'ai parcouru un peu les quatre chapitres, on est à Exode 20 jusqu'au chapitre 24, je me suis rendu compte que c'était vraiment un condensé de la loi que Dieu allait donner, vraiment les grandes lignes. Et le reste du livre va surtout évoquer les instructions pour le tabernacle. Il y aura également dans le livre des Lévitiques, je suis allée un peu plus loin, il n'y aura que deux chapitres qui vont parler des règles entre les relations des personnes. Mais le reste, ça sera à nouveau des instructions sur la sanctification, la purification, sur les sacrifices, sur les fêtes. Et dans le Deutéronome, je suis aussi allée voir. Alors là, l'auteur, il rappelle encore le périple du peuple d'Israël. Et là, c'est encore des règles de purification et des fêtes. Alors j'aimerais faire deux remarques. Quand j'ai survolé un peu ces différents passages, tout ce qui pouvait être en lien avec la loi, je me suis rendu compte que la proportion entre les règles qui régissaient les relations humaines ou les biens ou les personnes, la proportion était vraiment petite par rapport à toutes les règles qu'il y avait sur la purification, sur les rites, sur les cultes, toutes les offrandes à apporter au Seigneur. Sur la manière de construire le tabernacle. C'est complètement déséquilibré. Toutes les règles qui ont en lien avec le culte pour le Seigneur sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreuses que le reste. Et la deuxième réflexion que je me suis faite en lisant ces passages, c'est à chaque fois que Dieu commence un passage, commence un texte de loi, on va dire, il commence toujours par des problèmes d'idolâtrie. Dieu rappelle systématiquement que c'est lui le seul Dieu. Que lui seul doit être adoré. Et puis après, il y a les règles de loi. Alors, les passages que j'ai choisi de vous partager ce matin, parce qu'on ne va pas lire les quatre chapitres, vont un peu dans le même sens. Alors, je vous propose de commencer par les tout premiers versets de ce chapitre 20, des versets que l'on connaît bien parce qu'il s'agit des 10 commandements. Alors, au verset 1 du chapitre 20, on commence à lire. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. » C'est les premières choses qu'il dit. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Après, il y a la suite des 10 commandements. Si on continue un petit peu plus loin, le verset 22, toujours du chapitre 20, c'est toujours Dieu qui parle. « Vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne m'associerez aucune divinité. Vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or. Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail, en tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai. Si vous ne construisez pas un autel en pierre, vous ne le bâtirez pas en pierre taillée, car en taillant les pierres au ciseau, vous les profanerez. » Et puis il y a des lois sur les esclaves, sur les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens, et puis des crimes passibles de la peine de mort. Et parmi ces crimes, il y en a un au chapitre 22 cette fois-ci, chapitre 22, verset 19. Parmi certains crimes, il y a « Celui qui offrira des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel devra être exécuté. » C'est dur. La peine de mort pour ceux qui offrent un sacrifice autre qu'à l'Éternel, quoi. Et puis si on continue, il y a la protection des défavorisés. Et puis il y a ce que l'on doit à Dieu. Là aussi, j'aimerais lire avec vous le verset 28, toujours du même chapitre. Tu ne différeras pas l'offrande des prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu m'offriras également le premier-né de tes bœufs et de tes moutons et de tes chèvres. Ils resteront 7 jours avec la mère et le 8e jour, tu me les offriras. Et là, le verset 30, « Vous serez pour moi des hommes saints. » Il parle de la justice. Et puis, enfin, chapitre 23, le verset 10, il parle du sabbat. « Pendant 6 ans, tu ensemenceras ta terre et tu en récolteras les produits. Mais la 7e année, tu la laisseras en jachère. Les pauvres de ton peuple mangeront ce qu'ils y trouveront. » Et ceux qui laisseront nourrira les bêtes sauvages. Tu feras de même pour tes vignes et tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras tout ton travail. Mais le 7e jour, tu l'interrompras pour que ton bœuf et ton âne jouissent du repos et que le fils de ta servante et l'étranger puissent reprendre leur souffle. Vous veillerez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous n'invoquerez jamais des dieux étrangers, qu'ils ne soient même pas nommés parmi vous. Il a la loi sur les 3 grandes fêtes que le Seigneur veut que le peuple fête. Et puis, au chapitre 23, verset 20, quand Dieu parle de conquérir le nouveau pays, « Je vous enverrai un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne tolérera pas votre rébellion, car il est mon représentant. » Mais si vous lui obéissez pleinement et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Voilà, un survol un peu rapide. Le peuple va valider cette loi. Il va s'engager à le suivre. D'ailleurs, Moïse va même prendre du sang d'un sacrifice pour pouvoir asperger le peuple et dire « Voilà, on est ensemble ». Et puis, au chapitre 24, on voit que seul Moïse est autorisé à rentrer dans la présence de Dieu. D'ailleurs, à un moment, il montera avec 70 responsables qui, eux, verront aussi Dieu. Et c'est intéressant de voir qu'il est écrit que sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir ayant la pureté du ciel. On termine sur cette image. Alors, j'ai voulu relever justement ces quelques passages pour montrer combien Dieu est vraiment au centre de cette loi. Combien, dès le début, il pose les bases. Il n'y a qu'un seul Dieu et il ne tolérera aucun rival. Et en lisant tous ces chapitres, j'ai vraiment eu l'impression que rien n'était assez pur pour lui. Même la pierre, l'autel qui servit, enfin la pierre qui sert pour bâtir l'autel ne doit même pas être touchée par un ciseau. Elle doit être pure, elle doit être vierge, si on peut dire. Finalement, au travers de cette loi qui va parler un petit peu des différents domaines de la vie des Israélites, on se rend compte que tout a besoin d'être revisité par Dieu, que tout a besoin d'être visité pour satisfaire les exigences de Dieu. Alors, le peuple d'Israël, il commence un peu à découvrir ce Dieu. Ce Dieu qui commence à intervenir parmi eux. Jusque-là, c'était le Dieu de leurs ancêtres. Mais Dieu a commencé à se manifester avec la sortie d'Égypte, avec la traversée de la mer Rouge, de la mer des Joncs, pardon, avec la nuée qui les a guidés aussi pendant dans le désert. Et puis, ce spectacle sur le mont Sinaï, où il y a des tremblements de terre, où il y a le feu, la nuée qui est là. Qui est finalement vraiment ce Dieu? Qu'est-ce qu'il attend d'eux? Et on l'a vu donc, au verset 30 du chapitre 22, « Vous serez pour moi des hommes saints ». Voilà l'objectif de Dieu pour son peuple. Être des hommes saints. Avoir des hommes saints, rien de moins que ça. Dieu est saint et il veut se constituer un peuple saint, un peuple qui lui ressemble. Et donc au travers de tous les passages que nous avons lus, nous voyons que les exigences de Dieu vont dans ce sens-là. Il ne veut aucun rival. N'adorer que Dieu, lui offrir le meilleur, les prémices de notre moisson, le premier salaire qu'on pourrait avoir, le premier fils, le premier, tout ce qu'il y a de meilleur qu'on pourrait lui donner. Si on se rappelle ce que viennent de vivre les Israélites, ils sortent de captivité finalement en quelque sorte. Ils ont toujours grandi en tant qu'esclaves. Ceux qui sont là, ça fait 400 ans que le peuple d'Israël était en Égypte. Donc ceux qui sont là, qui ont 30, 40, 50, 100 ans, ils ont vécu toute leur vie comme des esclaves. Ils ne connaissent pas d'autre état finalement que d'appartenir à un maître. Et là, le peuple, quand il est parti du pays d'Égypte, il a besoin d'avoir des nouvelles directrices. Il se retrouve un peu orphelin finalement. Il n'y a plus le pharaon qui est là pour leur dire ce qu'ils devaient faire. D'où cette nécessité d'avoir une nouvelle règle, d'avoir quelque chose qui va leur donner, qui va mettre les choses en ordre. Et Dieu va justement profiter de cette occasion-là. En tout cas, c'est lui qui forme ce peuple pour donner ces indications dont ce peuple a vraiment besoin. Et cette loi met vraiment pleinement Dieu au centre. Tim Chester, dans son commentaire, il disait que finalement, sur cette loi, il y a comme le sceau de la sainteté de Dieu. Elle n'a rien à voir avec ce qu'il connaissait jusque-là. Cette loi, elle amène vraiment un idéal de sainteté. Le sens profond qu'il y a derrière cette loi va bien au-delà de juste le concret, à savoir rendre ce que l'on doit rendre ou... On verra un peu plus loin, quand le bœuf a fait quelque chose, de pouvoir restituer. Dieu veut se constituer un peuple qui est à lui un peuple saint, un peuple qui se donne entièrement. Et finalement, ces textes sont aussi fondateurs pour notre foi aujourd'hui. D'ailleurs, un petit témoignage, il y a quelques semaines de ça, je devais faire une méditation sur la vocation. Pour une rencontre missionnaire, on m'avait demandé de parler sur la vocation. Et je ne savais pas comment aborder ce thème, parce qu'il y aurait... voilà, il y a tellement de manières de pouvoir aborder ça. Et en réfléchissant à cette rencontre, il y a l'idée de commencer à étudier ce texte que j'avais pour la prédication d'aujourd'hui. Et je me disais, mais quel rapport il y a, les lois, les 10 commandements et la vocation, je ne voyais pas du tout le lien. Mais cette idée était là, persistante. Donc, j'ai quand même creusé un peu. Je me suis laissée guider et j'ai commencé à étudier les 10 commandements. Mais je n'ai pas eu besoin d'aller bien loin, finalement, avant de comprendre combien les toutes premières paroles de Dieu que l'on a lues tout à l'heure étaient fondatrices pour notre vie en lui. Quand il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Les bases sont fondées et sont posées. Et d'ailleurs, Jésus, il en a donné une version positive de ce commandement. Si on prend le Marc 12, verset 29, le passage de Marc 12, verset 29, il est dit, quand on demande à Jésus, mais quel est le plus grand commandement? Il va répondre, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Voilà, c'est le pendant positif. Au lieu de dire, tu ne te feras pas d'idole, tu n'auras pas de représentation, mais non. Le pendant, on va dire, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et quand on regarde ces différents domaines de la vie, Eh bien, toute notre vie en fait partie. Le cœur, c'est les émotions. L'âme, c'est toute la pensée, tout ce qu'on peut imaginer. L'âme, c'est toute la vie spirituelle, pardon, la vie morale. La pensée, c'est l'intelligence. La force, c'est tout ce qui est physique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, finalement, dans notre vie qui pourrait être concerné ? Tout est englobé par ce commandement. Et la réalisation pratique de ce commandement, c'est que Dieu soit prioritaire dans toute notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Aimer, le laisser toute la place, le laisser agir au travers de nous, au travers des choix que l'on fait, au travers de... Voilà, toutes les décisions qu'il y a à prendre, et même dans les toutes petites choses. Encore hier soir, vers 17h, je pensais avoir fini ma prédication, et là, je page blanche sur mon logiciel, il s'éteint tout seul. Et là, j'envoie un petit texto à mon mari, et je me dis, je crois que j'ai tout perdu. Des heures de travail et quelques heures avant de se retrouver là, ben, plus rien. Oh là là, punaise. Et là, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre encore ? Est-ce que c'est au travers de cette prédication ? Est-ce que là, je suis en train de dire qu'il faut t'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, ne faire rien d'autre que ça ? Et là, je dois réécrire toute cette prédication. Et je savais que juste ce qu'il fallait faire peut-être ce moment-là, c'était prendre du temps, se poser devant lui, de le louer. Mais ça bouillonne, quoi. Il y a la colère, il y a... Mais voilà, il m'a quand même laissé en paix, tranquille. Je savais pas, enfin, je savais que ça venait de lui, hein, parce que c'était pas possible autrement. Mais même dans ces petits choix de la vie de tous les jours, quoi, est-ce qu'on se laisse cette colère ou cette incompréhension ? Alors bien sûr, les émotions sont là et il faut pas les négliger non plus, mais ou simplement dire, bon, finalement, Seigneur, qu'est-ce qui est important ? Toi, tu sais ce que tu fais, hein, si tu m'as permis de tout perdre et que demain, il faut que je sois devant l'Assemblée, ben, tu vas gérer. Voilà. Ça peut aller même dans les petits détails comme ça. Alors, j'ai prévu, voilà, je suis partie dehors faire mon feu. Et puis finalement, je suis revenue et puis je me suis remise devant mon boulot. Et puis là, je me suis rendue compte, en voulant ouvrir une nouvelle page de sermon, que le premier titre, il ne voulait pas l'accepter. Il me dit, mais mettez toujours deux à côté. Je me suis dit, ben, le 1, il doit être quelque part. Et en recherchant encore plus en profondeur, j'ai réussi à retrouver la prédication. Voilà. Dieu aurait pu s'arrêter là avec ce premier commandement. Mais heureusement, il a explicité son propos, il a donné un peu d'autres règles pour pouvoir orienter son peuple. Et la loi qu'on peut lire, ça concerne surtout des bœufs, ça concerne des ânes, ça concerne des esclaves. Peut-être que pour nous, ça nous paraît loin, tout ça. Je vous encourage à les lire, si vous voulez, à la maison. Mais c'était tellement adapté au peuple de l'époque, parce qu'ils étaient bergers, parce qu'ils avaient besoin d'apprendre à vivre ensemble et qu'ils avaient besoin de ces règles-là. Et à travers cette loi, Dieu voulait remettre de l'ordre déjà dans leur vie du quotidien, leur quotidien à eux. Mais il voulait aussi permettre au peuple de prendre conscience, enfin, à un niveau supérieur de ce qui était bien, de ce qui était mal. Et finalement, pour les Israélites, leur conscience, elle devait être un peu trop mélangée, embrouillée par tout ce qu'ils avaient vécu jusque-là, parce qu'ils vivaient dans des pays étrangers. Ils devaient avoir un peu mélangé leur culture avec celle des autres. Ils ne savaient plus trop, finalement, où est-ce qu'ils en étaient, quelle était leur culture, qui ils étaient vraiment, quelle était leur identité. Et cette loi, elle va remettre de l'ordre. Elle va montrer au peuple ce que c'est que d'être saint, ce que c'est que d'être à Dieu, qui est Dieu et où est-ce qu'il veut les amener. Alors Dieu, il va donner des grandes lignes pour éduquer notre esprit. La loi, elle n'est pas exhaustive. La loi, elle ne va pas lister tous les cas possibles et imaginables pour pouvoir y répondre. Ce serait juste pas possible. Mais à travers la loi que Dieu donne à son peuple, il trace les grandes lignes à suivre. Elle peut servir de, encore Tim Chester qui disait, elle peut servir de jurisprudence pour ceux qui sont dans le droit, ils savent de quoi il s'agit. La jurisprudence, j'ai découvert qu'en fait, ça rassemble tous les procès un peu atypiques, des procès où là, il a fallu prendre des décisions. Et cette jurisprudence, finalement, va servir d'exemple. On va pouvoir puiser là-dedans. Il y a les textes de la loi et puis la jurisprudence des exemples où on peut dire, ah ben tiens, il y a ce procès s'est terminé comme ça, peut-être qu'on va pouvoir aussi se servir de ça comme modèle pour le procès qu'on doit conclure aujourd'hui, pour régler des nouvelles situations particulières. Et c'est un peu comme ça qu'est vue la loi, finalement, de la loi qui est donnée par Dieu, comme des exemples, et en tirer l'essentiel même de cette loi. Même si, du coup, elle semble plus d'actualité pour nous, elle sert de base même pour l'éthique, pour tous nos théologiens qui se posent des questions sur comment réagir dans telle ou telle situation. Parce que dans ces lois, on peut y retrouver le principe de la réparation, la responsabilité, assumer la conséquence de nos actes. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, simplement un bœuf qui va faire du mal à une personne, si c'est la première fois, le maître, voilà, n'aura pas de compte à rendre. Par contre, si ce bœuf a déjà eu des antécédents et que pour le coup il fait du mal à quelqu'un et que le propriétaire n'a pas anticipé, là, il va être responsable et il va devoir payer. C'est juste un exemple, il y en a plein. Et tous ces principes, ils sont applicables à nous aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on a voulu faire, c'était volontaire? Est-ce que c'était pas volontaire? Est-ce que c'était prémédité ou pas? On retrouve ça aussi dans nos lois. Dieu, il a donné toute une liste d'exigences, justement, pour éduquer les hommes, pour éduquer son peuple. Et il a dû passer, justement, par ces exemples très pratiques. Et à tel point qu'il y avait des spécialistes de la loi. Hein, on les voit qui sont confrontés à Jésus dans le Nouveau Testament. Des spécialistes qui étaient là pour étudier la loi et savoir comment l'appliquer au jour où ils avaient besoin de l'appliquer. Toujours dans ce commentaire d'Exode, Tim Chester, il prend l'exemple des enfants et des parents. Les parents, finalement, ils ont besoin de donner des règles aux enfants qu'ils ont besoin d'appliquer quand ils sont petits. Par exemple, ne pas aller trop loin si tu es en vélo pour que je puisse te voir, pour te protéger si jamais il y arrive quelque chose. Ou alors, demander quand on veut se lever de table. Un enfant, voilà, il va obéir à ses lois. Mais ce n'est pas juste la règle en elle-même, ce n'est pas juste demander, demander l'autorisation pour se lever de table. Quand il sera plus grand, il n'aura plus besoin de demander ça, parce qu'il aura appris à quel moment c'était le meilleur moment. Il saura discerner comment faire, en fait, comment se comporter en société. Il n'aura plus besoin de demander. Et avec la loi et Dieu, c'est la même chose. Pour le sabbat, par exemple, Paul, il relativise en disant « c'est pas obligé que ce soit exactement ce jour-là ». Peu importe à chacun de discerner quel est le meilleur jour pour lui. C'est juste le principe d'un jour de repos. Et si on impose un jour à quelqu'un, alors là, on le remet sous l'esclavage d'une loi. Ce serait plus simple si on avait des règles communes à suivre, qu'on avait tous les mêmes. Mais là encore, Dieu, il nous choisit libres. Il a choisi de nous rendre libres, même avec des règles, même avec des lois. Il nous donne le discernement. Et dans ce discernement-là, c'est aussi accepter peut-être que l'autre comprend les choses un peu différemment et peut-être l'applique à sa manière, tant que ça reste dans les valeurs que le Seigneur il a pour nous. Tant que Dieu reste au centre, tant qu'il reste notre priorité. Et simplement, un dernier point pour terminer, c'est que dans toute cette loi, à la fin, il y a toujours des bénédictions et des malédictions. Toujours, si le peuple arrive à suivre ses lois, il va être béni. S'il n'y arrive pas, il va recevoir des malédictions. Et effectivement, dans la suite de l'histoire, on voit que le peuple d'Israël, les malédictions sont tombées sur lui. Parce qu'il n'a pas réussi à répondre à ses exigences. Qui le peut d'ailleurs ? Le peuple d'Israël va subir l'exil, il va être confronté à la mort. Il va plusieurs fois être disséminé parce qu'il n'aura pas réussi. Et les bénédictions alors ? En fait, les bénédictions, elles sont revenues qu'à Jésus. Parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait accomplir cette loi. Il est allé jusqu'au bout. Lui seul, il pouvait être pleinement saint et répondre à toutes les exigences. Mais ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est que nous, on est enfants de Jésus, on lui appartient. Et qu'à ce titre-là, parce qu'il est mort pour nous, aujourd'hui, on est aussi sous les bénédictions de Dieu. On pourrait se dire qu'on est quitte, le peuple d'Israël a eu les malédictions, que Jésus a eu les bénédictions. Mais en fait, c'est aller encore plus loin. C'est qu'à la croix, Jésus a aussi pris les malédictions. Ça ne suffisait pas que le peuple d'Israël paye, c'est Dieu qui a payé pour lui. C'est grâce à cela qu'on est aujourd'hui, nous, libérés de la loi. On n'est plus condamnés aujourd'hui. Ça serait impossible pour nous d'être saints comme Dieu le souhaite. Finalement, avec la loi, Dieu nous a montré le chemin pour accéder à la perfection. Et avec la croix, il nous a donné le moyen d'y arriver. Mettre de l'ordre, c'était le souhait de Dieu en donnant cette loi. Il voulait un peuple saint, un peuple pleinement consacré à Dieu, un peuple qui lui ressemble parfaitement. Être saint, c'est un bel idéal. Dans un monde parfait, oui, on peut envisager que cela soit possible finalement d'être saint, de ne plus tomber, de ne plus faire de tort à qui que ce soit, d'avoir toujours la bonne parole au bon moment, savoir toujours exactement comment agir, quoi. Tomber toujours à propos. Oh, c'est le rêve. Et pourtant, c'est aussi le rêve que Dieu il a pour chacun d'entre nous. Et c'est aussi celui qu'il a eu pour sa création dès le début et son peuple. Et aujourd'hui, il veut continuer à se former un peuple saint. Il vise haut pour ceux qui lui appartiennent, mais il vise haut parce qu'il nous donne aussi le moyen d'y arriver. Aujourd'hui, on a son esprit en nous. C'est vraiment ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Être saint en Dieu. Que Dieu soit au centre de toutes nos préoccupations. Vraiment. Et le reste suivra naturellement. Je propose de prier pour terminer. Seigneur, quelle joie de pouvoir regarder aujourd'hui ta parole sous un autre angle, de voir combien ta loi était aussi là pour montrer combien tu es saint, montrer combien tu veux que ton peuple soit saint comme toi. Et ça nous paraît vraiment souvent inaccessible. Et pourtant, merci parce que Jésus a accompli toute cette loi-là. Tu savais que ce n'était pas possible pour nous, mais tu as trouvé un autre moyen pour qu'aujourd'hui, on soit saint à tes yeux, Seigneur. Quelle grâce, quel cadeau immérité. Qu'on soit au bénéfice de toutes ces bénédictions alors que qu'on ne le mérite pas et qu'on n'en est pas capable. Mais merci de l'avoir fait pour nous. Merci de nous aider encore aujourd'hui à te mettre à la première place parce que c'est tout l'honneur qui t'est dû, Seigneur, et tellement plus. Que toute la gloire, vraiment toute la gloire, te revienne. Amen.